Journal de Maïma. Enata. Raté pour la prédiction, mon capitaine. Pierre-Yves François n'est pas rentré pour le goûter. Les poules de Tanaé ont dévoré le pot et châtaigne une banane. Les lectrices n'y ont pas touché. Trop occupées. Et pas vraiment préoccupées. Pierre-Yves avait été clair à la fin du déjeuner, après avoir énoncé son exercice. À vous de jouer, mesdames. Vous avez tout l'après-midi. On se retrouve dès la nuit tombée. C'est-à-dire aux alentours de 18h. Dans moins d'une heure. Je peux vous dire avec précision où se trouve chacune des lectrices. Toutes s'activent et écrivent. Titine est descendue jusqu'à l'espace Brel. Maman et Farahine se sont à nouveau installées sur leur table du front de mer. Héloïse est remontée au cimetière et Clem est restée dans sa chambre. Moi, je suis avec Yann. Nous marchons tous les deux dans le village, côte à côte, entre le bureau de poste et le magasin Gauguin. Le soleil disparaît déjà derrière le sommet du mont Timitiou. Comme chaque soir, la nuit tombera en quelques minutes sur la baie des Traîtres, noircira les couleurs du ciel avec la même urgence que les 5 élèves de PYF noircissent leurs feuilles. Une harmonie de bleu et de feu au-dessus du Pacifique, sitôt composée, sitôt grignotée par l'obscurité. Je tire Yann par la manche, tout en observant les contours du rocher Anaké, rongé à la gomme charbon. Je crois qu'on se retrouve encore seuls tous les deux, mon capitaine. Il nous reste une demi-heure avant le couvre-feu. Ça te dit une happy hour en terrasse? Yann acquiesce avec ironie.
Samedi, on choisit quel bar? Le Blue Lagoon, le Sunset Palladium, le Waikiki?
Yann m'a avoué que le premier jour où il s'est retrouvé à errer dans Atuona, il a été surpris de découvrir qu'il n'existait aucun restaurant dans le village, pas même un bar. Juste une roulotte, trois tables et 10 chaises en plastique qui n'ouvrent que le midi et parfois la nuit. Je réponds, motivé. On choisit le magasin Gauguin. Je traverse sans hésiter la rue, en me faufilant entre les pick-up qui stationnent quelques minutes devant l'épicerie du village, le temps de remplir leurs coffres, avant de repartir vers les vallées dans les cocoteraies et les bananeraies. Une ambiance de western. Yann m'attend devant la boutique, sans rien rater du va-et-vient des marquisiens, carrure de catcheur, torse tatoué et queue de cheval nouée. Je ressors avec 1 litre de coca, 1 paquet d'Oreo, 4 choupas et un grand sourire.
On se fait notre happy hour sur la plage ?
Yann a l'air moins emballé que les aliments sous plastique que j'ai rapportés. Je m'en fiche, j'ai des arguments bien ficelés.
Eh oh, c'est bon mon capitaine, me fais pas le coup de la malbouffe et de l'obésité.
Tout le monde sur Terre vit et mange ça, pourquoi les marquisiens n'y auraient pas droit ? Je dévisse le bouchon du coca. Et puis, c'est bon pour l'écologie. Je porte le goulot à mes lèvres. Le gendarme roule des yeux ahuris, mais me suit tout de même en direction de la plage. J'explique tout en vidant 1/3 de la bouteille.
Bah oui, regarde autour de toi. Les pick-up, les plats tout préparés, les fringues, les téléphones.
Aujourd'hui, en commandant sur Internet, on peut tout se faire livrer à Ivaoa en moins d'une semaine. Plus besoin de monter à cheval pour aller chasser le cochon sauvage dans la forêt. On gardera une piste ou deux pour relier les villages et le reste de l'île sera rendu à la nature. Les chemins aux ancêtres et les tikis pourront dormir tranquilles sur leur méhae.
Yann sourit. Pas sûr que mes arguments à la noix de coco l'aient bluffé.
Nous passons devant un bâtiment qui paraît abandonné. Je précise, au cas où il n'aurait pas remarqué l'inscription sur le fronton.
L'ancienne gendarmerie.
Tes collègues. Elle a été fermée l'année dernière. Restriction de budget. Il y a moins de 2000 habitants permanents à Ivaoa et presque plus de sauvages à civiliser. Nous coupons entre les boutiques dont les rideaux sont déjà baissés, un coiffeur et une pharmacie, et traversons le terrain de football désert. Au moment où on atteint le rond central, je propose.
Pendant notre happy hour, on se fait un jeu.
Tu veux jouer à quoi, Maïma ?
À enquêter. Avec toi.
Nous sommes assis sur la plage. Les embruns iodés se mélangent aux odeurs acidulées des manguiers. Des frégates voltigent au-dessus de nous, avant de filer vers le milieu de la baie, jusqu'au rocher Anakee. Yann s'est finalement laissé tenter par une gorgée de coca. Il repose la bouteille dans le sable, aussi noir qu'elle. J'insiste.
Alors, t'es d'accord pour que j'enquête avec toi ?
Enquêter sur quoi ?
Fais pas ton malin, tu sais bien. Depuis le début, j'ai l'impression qu'on s'est retrouvé dans une sorte de roman policier. Un peu comme dans Dix Petits Nègres. Des hommes et des femmes qui ne se connaissent pas sont convoqués pour une raison bidon sur une île. Tous peuvent être coupables. Il faut trouver le tueur avant qu'il se fasse assassiner les uns après les autres.
T'as beaucoup d'imagination, Maïma. Mais pour l'instant, personne n'est mort.
À mon avis, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour ce farceur de PYF. Vois-tu, même si un assassin rôdait sur l'île, je ne pense pas qu'il serait l'une des lectrices. Je soupçonnerais d'abord un marquisien, ivre et bagarreur. Bonjour le cliché. Avec des dents de cochon autour du cou et un casse-tête à la main. Un peu trop fastoche, non, mon capitaine? Je préfère mon histoire. Cinq petites lectrices, comme les cinq petits tikis tout neufs. Toutes cachent un secret. Une seule a tué. Une seule survivra. Ou pas. La mer continue de reculer. Le ciel bleu dragon crache ses dernières flammes. Yann, finalement, vide la moitié de ma bouteille de coca. Il regarde avec méfiance autour de lui. Tout devient sombre. On ne distingue même plus les ombres de maman et de Farain, assises devant les tables qui bordent la digue. « D'accord, » admet-il. « Jouons à ton jeu, idiot. » PYF a disparu. Considérons que l'une des cinq lectrices est complice, qu'elle n'a pas été choisie pour participer à l'atelier par hasard, et essayons de deviner qui elle est. Par qui veux-tu commencer? Je n'hésite pas. Ta femme, bien sûr. La fameuse commandante Farain Merson. Tu ne m'en voudras pas si je suis franche? Pas de tabou entre nous. Si on veut aller au bout de l'enquête, il faut qu'on se dise tout. Yann sourit.
Vas-y.
T'es sûr, tu ne te vexeras pas?
Vas-y, je te dis.
Ok, mon capitaine. Farain est super intelligente, ça se voit au premier coup d'œil. Elle a un cerveau qui tourne à 1000 à l'heure. Une sorte d'ordinateur. Tu lui mets un puzzle de lagon bleu de 1000 pièces devant les yeux et elle te l'assemble en 10 minutes. Elle n'a pas besoin d'être gentille, pas besoin de séduire. Elle a toujours raison. Elle commande et on lui obéit. Pas vrai? Je suis peut-être allé un peu loin, mais mon capitaine ne réagit pas.
Tellement habitué à ne pas broncher?
Ou ai-je tapé dans le mille? Tout en parlant, j'essaye de distinguer les expressions du visage de Yann dans l'obscurité. J'en viens à son secret. Déjà, un premier truc bizarre. Pourquoi la commandante en chef d'un commissariat central de la capitale s'est-elle retrouvée ici, au bout du monde, dans un atelier d'écriture? On en a déjà parlé, je sais, mais je suis pas convaincu par son numéro de groupie qui gagne le gros lot. Et second truc, plus bizarre encore, quel est le lien entre ta femme et ce galet marquisien posé sur les habits de PYF? Car elle connaît sa signification, ça crève les yeux, et pourtant, elle n'a donné aucune explication. Les ombres de manguiers au-dessus de la digue ressemblent à des squelettes recrachés par la marée.
« Bien joué, Maïma »,
se contente de répondre Yann.
« Bien observé. Bien résumé. Tu es doué. Et pas si loin de la vérité. Mais il est trop tôt pour t'en parler. »
Le mystère qu'il laisse planer m'agace au plus haut point, même si je suis persuadé que mon capitaine, contrairement à sa femme, ignorait la signification de l'Enata.
« À mon tour alors, »
enchaîne-t-il. « Vas-y, je suis sûr que tu vas commencer par maman, histoire de te venger. »«
Ta maman donc, »
confirme la silhouette noire sans relever. Marie-Ambre Lantana. En apparence, elle ne cache aucun secret. Elle est encore assez jeune, assez belle. « Très riche. Une pétasse, vas-y, dis-le. Même si je t'ai vu plus d'une fois mater dans son décolleté. »«
Moi, je ne t'ai pas interrompu, » dit calmement le gendarme.
« Ok, désolé. »
Donc, Marie-Ambre, ta maman, on peut aisément comprendre pourquoi elle participe à un atelier d'écriture. Elle n'a pas vraiment de métier, sa fille grandit, elle s'ennuie. Elle rêve de trouver sa voie, de n'être pas seulement la femme d'un riche marchand de perles noires.
Sauf que... Sauf que quoi ?
Tu as dit que tu ne m'interrompais plus.
C'est ta faute aussi, tu ralentis pour me faire réagir. Vas-y, continue.
Sauf que ta maman n'a pas débarqué ici, à Iwa-Oa, par hasard. Son mari est marquisien. Sa fille adoptive est marquisienne. Étrange, tu ne trouves pas? Il y a forcément un lien.
Pendant quelques secondes, je ne réponds rien. Avant d'enchaîner. Pas mal, t'es plutôt doué, toi aussi. Tu devrais faire flic. À mon tour? Tiens, parlons de Titine. Elle, on sait pourquoi elle est venue ici. Pour Brel. Et grâce à son influence aussi. Elle tient un blog littéraire suivi par plus de 40 000 personnes. Les deux tiers rien qu'en Belgique, où Pierre-Yves François vend des camions de livres. Un blog tout rose où elle ne poste que des critiques drôles et gentilles. D'ailleurs, Martine expose toute sa vie en rose sur Internet. Les gosses qu'elle emmène voir la mer la plus moche du monde, son appartement, sa bibliothèque, ses 10 chats... Il y a plus de vidéos d'eux sur son compte Instagram que d'épisodes de Plus belle la vie. Transparente et innocente, la Titine.
Trop ?
Ironise Yann.
Dans les romans, la coupable est toujours celle qui n'a aucun mobile apparent ?
Mouais, dans les romans pour débutants. À toi.
Mon capitaine n'est plus qu'une forme sombre masquant la ligne claire des vagues du bord de mer.
Suspecte suivante, annonce Yann.
Clémence.
Elle aussi, on sait ce qu'elle fait ici.
Devenir la prochaine Agatha Christie. Du genre à penser, si à 40 ans t'as pas publié un roman, t'as pas réussi ta vie.
Je réagis. Et alors ? Ta femme ne veut pas écrire un roman, elle aussi ? Avec Titine, Clem est la plus sympa. J'aime bien son petit côté moitié fille de papier, moitié garçon manqué. Et
tu n'avais pas promis de me laisser parler ?
Moi, justement, ta première de la classe, je ne la sens qu'à moitié.
Tu ne m'en voudras pas si je suis franc ?
Je crois surtout qu'elle joue les bonnes copines avec toi parce qu'avec ta maman, c'est la guerre froide.
N'importe quoi.
C'est ton instinct de flic qui te fait dire ça ? Eh ben moi, c'est la dernière de la classe que je sens pas. La mystérieuse Héloïse, l'éplorée, l'inconsolable à consoler. Ça crève les yeux qu'elle est là pour expier ses péchés, loin, seule. Quelle saloperie a-t-elle commise ? T'as vu ses dessins de psychopathe ? Des gamins toujours par deux, sans bras, sans jambes, sans yeux. Et puis elle s'y connaît un peu trop en tatouage, ta reine du gribouillage.
Mon capitaine réagit comme si un crabe lui avait pincé le pied dans l'obscurité.
Pourquoi ma reine ?
Parce que tu la kiffes grave, Héloïse. Ça aussi, ça crève les yeux. Ses jolies poses de statue, son beau regard perdu. Un gros piège tendu pour les hommes trop gentils. T'es tout à fait le genre à craquer.
J'éclate de rire avant d'ajouter.
Ok, ok, je sais, t'es marié. Avec la plus douce et la plus sexy des fliquettes de France. On passe aux choses sérieuses. On parie.
Le crabe paraît lui avoir pincé l'autre pied.
Yann a presque crié. On parie quoi ? Qui est la coupable ?
Dans le noir, à tâtons, j'ai saisi 5 galets. À l'aide de mon téléphone portable planté dans le sable, j'éclaire la scène. Je sors de ma poche un stylo blanc et j'inscris une initiale sur chaque galet. F, M, A, M, C, E.
Yann m'observe avec un air soupçonneux. Je plisse les yeux. Qu'est-ce qu'il me veut ? Avant de comprendre pourquoi il me regarde de travers.
Ah, c'est le stylo blanc qui t'étonne ?
Je l'ai piqué à maman. Tu penses que c'est le même que celui avec lequel a été tracé le tatouage sur le galet de PYF ? Tu sais, un touriste sur deux qui passe aux Marquises en achète un au magasin Gauguin pour écrire un message sur une pierre et la porter devant la tombe de Brel.
J'aligne les 5 galets sous le halo de ma torche.
Allez, on compte jusqu'à 3 et on en choisit chacun un. Celui qui désigne la complice de Pierre-Yves, la menteuse, la tueuse, celle qui, un à un, va tous nous éliminer.
J'éclate encore de rire.
Tu crois qu'on va choisir le même ?
Yann soupire, mais accepte le jeu.
Allez. 1, 2, 3.
Dans le même mouvement, nos deux mains se referment sur 2 des 5 cailloux. On les ouvre ensemble. Au creux de la mienne, un E est tracé sur le galet. E, comme Héloïse. Au creux de la sienne, un C, comme Clem. La trompe de Tanaé, appelant au dîner, déchire la nuit à ce moment précis. Nous remontons en silence vers la pension. Je rumine pendant toute l'ascension. Clem ne peut pas être complice avec PYF. J'ai bien vu tout à l'heure, devant la pile d'habits sur les rochers, quand elle est descendue du cimetière et qu'elle est arrivée tout essoufflée. Elle était surprise. Elle était sincère. Au-dessus de moi, la voie lactée paraît toute proche. Elle ressemble à une toile tissée par une araignée géante cachée dans un trou noir, attendant de prendre au piège les étoiles filantes. Est-ce que c'est ce que nous sommes toutes ? Des petites étoiles filantes coincées dans un filet ? J'ai hâte de retrouver Clem pour le dîner. À deux, on ne se laissera pas si facilement attraper.